C'est tout?
Vous souvenez-vous qu'à l'Épiphanie, nous avions découvert que Jésus était venu pour tous les hommes? Il nous rappelle qu'il est venu pour tous, et surtout pour ceux qui nous paraissent le moins dignes de lui, le plus loin de lui. Un jour qu'il traversait la ville de Jéricho,
un homme nommé Zachée, chef de publicain et fort riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est pourquoi il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, car Jésus devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Vite, il descendit et le reçut tout joyeux. Tous voyant cela, murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un pécheur. » Cependant, Zachée s'arrêtant, dit au Seigneur, « Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit alors, « Cette maison a reçu aujourd'hui le salut, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Alors, il est venu pour les pauvres et les riches, les petits et les grands, les gentils et les méchants?
Oui, il est venu pour tous les hommes. Vous savez comme Jésus était heureux de faire plaisir aux hommes. Eh bien, avant sa mort, Jésus va nous faire un don magnifique, un très très beau cadeau.
Lequel?
Dites-moi d'abord, quels sont à votre avis les plus grands malheurs que vous connaissiez?
C'est la guerre.
Oui, on se dispute très fort, alors il y a plein de gens qui meurent.
Moi, je vous demande si le pire, ce n'est pas encore ceux qui meurent de faim et de soif, même quand il n'y a pas la guerre.
Jésus peut-il empêcher ces malheurs-là?
Tu sais bien que non. Tu nous as dit toi-même que les hommes étaient libres, même d'être méchants. Et Jésus, maintenant, il ne s'occupe pas de nous donner à manger.
C'est vrai, mais c'est Jésus aussi qui a dit « L'homme ne vit pas que de pain ». À votre avis, pourquoi donc a-t-il dit ça?
Forcément! Lui, il pense toujours à notre âme. Une âme, on ne la voit pas, ça ne mange pas.
En tout cas, notre âme peut mourir et connaître la guerre, au moins contre le démon du mal.
C'est le péché qui peut la rendre malade, et même la faire mourir.
Et notre âme, ne peut-elle avoir faim?
C'est une drôle d'idée.
Tu trouves? Si tu ne nourris pas ton corps, que lui arrivera-t-il?
Je resterai tout petit, et en plus, je maigrirai, et je mourrai.
Et tu crois que ton âme n'a vraiment besoin de rien? Crois-tu que sans nourriture, la toute petite graine de moutarde pourra devenir le bel arbre promis par Jésus, où les oiseaux viennent nicher? Quelle vie Jésus a-t-il promis à notre âme?
La vie de Dieu, la grâce de Dieu.
Oh, je me souviens, la Sainte Vierge demandait seulement la grâce.
Et voilà, vous y êtes. Jésus a pensé, avant de quitter les hommes, à leur laisser le plus beau des cadeaux possibles, la nourriture parfaite pour notre âme. Lui-même. Il a trouvé le moyen de rester avec nous, pour toujours, pour nourrir nos âmes autant qu'elles auraient faim.
C'est la communion?
Oui. Et on dit aussi l'Eucharistie, un mot un peu compliqué qui veut dire tout simplement « donner une grâce ». Cette grâce que la Sainte Vierge demandait.
Tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi.
C'est la communion?
Oui, la communion. Quelle belle expression, n'est-ce pas? Jésus, par son corps, va nous unir à lui et aussi nous unir entre nous. Mais on dit aussi l'Eucharistie, d'un mot grec cette fois-ci, qu'on peut traduire de deux manières. D'abord, l'Eucharistie, c'est la grâce parfaite,
Ensuite, l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. La grâce parfaite, la vie de Jésus, c'est bien la vie parfaite dont je vous ai parlé. Vous vous souvenez, la vie que demandait la Sainte Vierge. L'action de grâce, comme Jésus qui rendit grâce, nous aussi nous remercions notre Père pour tous les bienfaits dont il nous comble, à commencer par le don qu'il nous a fait de son Fils Jésus.
C'est vraiment son corps?
Son corps que nous mangeons? Et monsieur le curé, boit vraiment son Jésus?
C'est vraiment son corps et son sang? Ce n'est plus du pain et du vin?
Oui, c'est son corps et son sang. Tu ne peux pas, je t'assure, accepter une partie de ce que te dit Jésus et rejeter l'autre sous prétexte que tu ne peux pas comprendre. Si je t'affirme avec tant de force que c'est bien son corps et son sang, ce n'est pas que je sois capable plus que toi de comprendre ce mystère. C'est uniquement parce que Jésus lui-même nous l'a dit et que sa vie entière nous prouve qu'il ne pouvait pas mentir. Même les apôtres, tu sais, qui vivaient avec lui, ne comprenaient pas. Et pourtant, ils ont dit à Jésus...
À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Ne vous ai-je pas dit souvent que nous devions être avec Dieu aussi confiants que des petits-enfants avec leurs parents? Si tu refuses de faire confiance, tu n'as pas plus de raison sérieuse de suivre Jésus que de suivre quelqu'un de bien sympathique qui te plairait particulièrement.
C'est le jeudi saint que ça s'est passé? Pendant le repas dont tu as parlé?
Oui. Les Juifs chaque année célébraient la Pâque, en souvenir de leur délivrance du pays d'Égypte. Vous vous souvenez bien de Moïse qui les avait délivrés des Égyptiens qui les tenaient en esclavage? Pour célébrer cet événement heureux de leur histoire, ils faisaient un repas pascal où ils devaient, selon leur loi, manger du pain azim, c'est-à-dire du pain sans levain. C'est ce pain que Jésus leur a partagé après l'avoir changé en son corps, et c'est le vin qu'il a d'eux-mêmes changé en son sang. Et vous avez bien entendu ce que Jésus a dit?
Vous ferez cela en mémoire de moi.
Pour que monsieur le curé recommence, avant la communion, pendant la messe?
Oui, pour que nous tous, qui n'avons pas eu le bonheur de vivre avec Jésus, nous puissions être tout de même aussi proches de lui que les apôtres, dans la même communion que Jésus et ses apôtres le jeudi saint.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie tes offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Vous ferez cela en mémoire de toi.
Il me reste à vous conter une terrible journée, celle du vendredi saint.
La mort de Jésus. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on prenait plaisir à se rappeler cette journée-là. Il y en a pourtant plein d'autres des souvenirs de Jésus. Mais des croix, on en voit partout.
Je l'ai même vu au carrefour quand on se promène.
C'est parce que finalement, tout ce qu'a dit Jésus, tout ce qu'il a fait, je vais vous scandaliser. Eh bien, c'est moins important que sa mort sur la croix. Ou du moins, c'est sa mort sur la croix qui donne son vrai sens à tout ce qui s'est passé avant.
Mais enfin, ce n'est pas possible. D'abord, c'est sa défaite contre les pharisiens et les méchants.
C'est vrai, tu as raison. La seconde bataille, elle a bien l'air d'un échec. Mais écoute, d'abord, savez-vous ce que c'est qu'un sacrifice?
Je sais. L'autre jour, j'avais envie de la fin du gâteau. Et je l'ai quand même laissé à Eric. Et tu m'as dit que c'était bien de faire un petit sacrifice de temps en temps.
Oui, mais ça peut aussi être une offrande. Les païens en faisaient pour calmer la colère de leur dieu. Ils en faisaient même beaucoup, parce qu'ils avaient des tas de dieux.
En effet, c'est surtout une offrande. Les juifs en faisaient aussi avant la venue de Jésus, pour le dieu unique qu'ils adoraient.
C'est pour les sacrifier dans le temple que Joseph et Marie ont donné deux colombes en présentant le petit Jésus?
Mais oui, car tous les jours dans le temple, on sacrifiait les animaux.
Pour faire plaisir à Dieu?
Peut-être aussi pour lui demander d'aider les Juifs.
Oui, et de toute façon, pour honorer Dieu, et pour qu'il leur pardonne le mal qu'ils avaient fait. écoutons maintenant cette histoire que j'ai découpée pour vous dans le journal. Allez, lis-la, Pierre.
Un incendie a éclaté dans la caravane des époux du pont, qui s'étaient absentés pour la soirée. Jean, 15 ans, a pu sauver ses petites sœurs Sophie et Christine, 5 ans, mais il est mort, hélas, en rentrant à nouveau courageusement pour tenter de sauver Isabelle, 3 ans.
Que j'aurais eu peur.
C'est terrible qu'il n'ait même pas pu sortir Isabelle. Alors, il a donné sa vie pour sa petite sœur.
Tu vois, Jean a fait le plus grand sacrifice qu'on puisse faire. Il a donné sa vie pour elle. Il n'a plus du tout pensé à lui. Il n'a pensé qu'à elle.
Et Jésus ?
Il est mort pour nous.
Il a donné sa vie pour nous sauver.
Il a voulu remplacer tous les pauvres petits sacrifices d'animaux offerts par les Juifs. Il a offert à Dieu en sacrifice le plus innocent et le plus parfait des hommes. Lui-même.
Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il l'a vraiment voulu ? Tu nous as raconté qu'il avait des ennemis de plus en plus nombreux. Ils ont fini par le prendre.
De toute manière, s'il avait voulu se sauver, il aurait pu, tu ne crois pas ?
Bien sûr. Mais Dieu avait envoyé Jésus pour nous sauver. Et Jésus a toujours accordé complètement ses actes avec ses paroles. Lui qui nous demande la perfection a été la perfection même. Lui qui nous demande de donner, il a tout donné.
Celui qui veut être le premier parmi vous devra être l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Je n'avais qu'un ami,
je n'avais qu'un ami,
mais ils l'ont fait souffrir,
mais ils l'ont fait souffrir,
mais qui donnait la vie,
mais qui donnait la vie,
mais ils l'ont fait mourir,
mais ils l'ont fait mourir.
Maintenant c'est pour eux,
maintenant c'est pour eux,
la souffrance et la peur,
la souffrance et la peur,
dans le monde merveilleux,
dans le monde merveilleux,
où il n'y a que bonheur,
où il n'y a que bonheur.
Cet ami, il est là,
cet ami, il est là,
et je l'entends plaider,
et je l'entends plaider,
auprès d'un Dieu pour moi,
auprès d'un Dieu pour moi,
c'est pour me pardonner,
c'est pour me pardonner,
sous la croix me sauver,
sous la croix me sauver,
en portant ta fardeau,
en portant ta fardeau,
celui de mon péché,
celui de mon péché,
cet amour qu'il est beau,
cet amour qu'il est beau.
Cet ami c'est Jésus,
cet ami c'est Jésus,
il est le seul sauveur,
il est le seul sauveur,
de loin il t'a vu,
de loin il t'a vu,
sans joie et sans bonheur,
sans joie et sans bonheur,
il t'appelle aujourd'hui,
il t'appelle aujourd'hui,
n'hésite pas, viens à lui,
n'hésite pas, viens à lui,
oh oui, ouvre ton cœur,
oh oui, ouvre ton cœur,
à ton libérateur,
à ton libérateur.
Je voudrais vous lire ce récit de la passion de Jésus, mais chaque phrase mériterait qu'on s'y arrête, et cela vous paraîtrait bien long. Ce que vous devez faire, chacun d'entre vous, c'est d'abord de chercher des tas de documents sur le pays de Jésus, sur Jérusalem en particulier, pour imaginer comme il faut les lieux où tout cela s'est passé. Ensuite, vous lirez dans le calme et le silence. Vous verrez, ce sera presque une prière. Il faut que ce terrible récit se grave en nous, non pas pour nous faire peur ou pour exciter notre émotion, mais parce que seuls ces mots peuvent nous faire entrevoir ce que Jésus a voulu souffrir pour nous, et combien il a le droit de tant nous demander, lui qui nous a tout donné. Pour vous guider dans cette lecture, je vais vous dire seulement que ce récit qu'on appelle la Passion de Jésus, nous pourrions le diviser en trois parties. La première partie commence la nuit. Avant sa mort, Jésus va avec ses apôtres prier au jardin des Oliviers. Vous savez, Jésus est un homme, alors il souffre et il a peur. Lui qui sait le sort qui lui sera réservé, il prie son Père.
Il commença à être en proie à la tristesse et à l'angoisse. Alors, il dit à ses disciples, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici, éveillez avec moi. » Alors on arrête Jésus, qui a été dénoncé par Judas, et on le conduit devant le grand prêtre Anne et devant Caïphe.
C'est la deuxième partie qui nous raconte comment Jésus a été jugé.
Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. On l'emmène à Pilate. On le bat. On le couronne d'épines pour se moquer de lui. Et tous les Juifs, même ceux qui l'avaient acclamé le jour des rameaux, crient au blasphème, réclamant sa mise à mort.
Enfin, la troisième partie nous raconte la mort de Jésus.
On l'emmène en dehors de Jérusalem et on le crucifie au sommet du Golgotha entre deux voleurs. L'un d'eux l'insultait en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi !» Mais l'autre, prenant la parole, le réprimanda, lui disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est justice, car nous recevons le juste châtiment de ce que nous avons fait, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. »